Morning Edition from NPR News.
MCT Sandin Berhausi.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Des négociations doivent s'ouvrir demain à Oman entre les États-Unis et l'Iran. Mais négociations pour dire quoi? Est-ce qu'on imagine vraiment le guide suprême prêt à négocier? Où est le peuple iranien dans cette équation? Apparemment nulle part. Et nous en parlons avec notre invité dans un tout petit instant. Le Washington Post qui licencie à grande ampleur. Est-ce que c'est une conséquence du trumpisme ou de mauvais choix économiques? Nous demanderons à Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit. Le reportage est en Nouvelle-Zélande ce soir où c'est la fête nationale. Mais une fête devenue très politique. Tourné contre le gouvernement.
Nous, on s'efforce de suivre les traces de nos ancêtres, de préserver notre langue, notre culture, malgré les politiques du gouvernement qui affectent nos vies.
Un reportage à découvrir autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Oda a trouvé le Japon qui entend concurrencer Disney en ouvrant le premier parc d'attractions Pokémon. Et puis juste avant 19h dans la Tech La Première, Stéphane Jourdain vous présente OpenClaw. C'est votre assistant IA personnel qui supprime 80% de vos applications. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, vous verrez. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Komşumuz İran'la özellikle dış müdahalelerin.
C'est le président turc Recep Tayyip Erdogan qui parle. Il était hier en Égypte, une conférence de presse conjointe avec le président égyptien Al-Sissi. Il dit que les interventions extérieures font peser des risques importants sur l'ensemble de la région. Il dit le règlement des différends avec l'Iran, y compris la question nucléaire, par la voie diplomatique, est la méthode la plus appropriée. Bonsoir Farid Wahid.
Bonsoir.
Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. On sent bien que la région, évidemment, a besoin de se rassurer dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Hier soir, il n'y avait plus de négociations entre l'Iran et les États-Unis, c'était assez clair. Aujourd'hui, à nouveau, négociations demain entre l'Iran et les États-Unis, donc confirmées par la Maison-Blanche. Avant de parler de ce que les uns et les autres mettent sur le tapis, Farid Wahid, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure en titre, qu'on parle des absents. Il est clair que le peuple iranien est totalement absent de cette équation, ou pas?
Alors, la situation actuelle est d'un cynisme absolument remarquable. Il y a encore 3 semaines, on a eu des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts en Iran. Il faut quand même bien comprendre, on parle de jeunes filles, de jeunes garçons. Mmh. Même le régime, aujourd'hui, ils ont confirmé que plusieurs centaines d'écoliers de lycéens ont été tués.
Ils s'en vantent quasiment, d'ailleurs.
Ils s'en vantent, ils s'en moquent carrément des morts et ils sont très fiers de ce qu'ils ont fait. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées sauvagement parce qu'ils voulaient vivre comme nous, dans un pays libre, parce qu'ils veulent que les hommes et les femmes aient les mêmes droits, parce qu'ils veulent une séparation de la religion et de la politique. Voilà, c'est des causes très nobles qui doivent être très appréciées par tous les Français et tous les démocrates du monde. Et on voit qu'en 3 semaines, en fait, on oublie tout simplement que ces jeunes-là ont été assassinés. Le régime a tiré avec des armes de guerre dans leur tête, des dizaines de milliers de prisonniers. Désolé d'être un peu dur et cynique, mais c'est la vérité du terrain, des gens qui vont se faire violer en prison, des gens qui vont se faire torturer. Et on en est à parler d'un éventuel accord qui n'arrivera jamais.
Alors,
c'est une mascarade, cette histoire de négociation qui permet juste au régime de gagner du temps.
On va y venir là-dessus. Personne n'a imaginé un seul instant, Farid Wahid, que de toute façon, Trump est ému par le sort des Iraniens. Le régime a piétiné la ligne rouge qu'il s'était fixée très très vite et personne, évidemment, n'a bougé le petit doigt. Est-ce que les Iraniens à Téhéran ont le sentiment que, au fond, ils sont morts pour rien, en fait? 30 000 personnes, probablement plus, sont morts pour rien ou pas?
Faut jamais dire ça, ils sont pas morts pour rien et ces vagues de contestation vont s'enchaîner encore en Iran et l'Iran, n'ayez aucun doute, sera un jour un pays libre grâce à tous ces gens qui ont fait ce sacrifice ultime de leur vie. En revanche, ils ont un sentiment d'abandon mais extraordinaire. Je parlais à l'un de mes proches en Iran qui disait que les Occidentaux, ils s'en rendent pas compte. Nous sommes à un moment historique avec le peuple iranien. L'Occident a souvent raté ses rendez-vous avec le peuple iranien et il faudrait peut-être pas répéter à chaque fois les mêmes erreurs. Alors je ne suis pas un va-t-en-guerre, mais le président américain a fixé une ligne rouge. Mmh. Il dit ici, à répression sanglante, nous allons réagir. Et il continue en tweetant, patriote iranien, prenez les institutions, l'aide arrive. Et aujourd'hui, il est en train d'aider le régime. Donc on est quand même dans un moment, encore une fois, absolument cynique. Et les Iraniens, ils ont le sentiment d'être complètement abandonnés par le monde entier. Alors, toutes les dictatures de la région aujourd'hui sont mobilisées pour venir à l'aide du régime. Les Européens, qui sont intellectuellement et d'un point de vue, j'ai envie de dire, civilisationnel, proches de la population iranienne, de toute façon, ils sont dans une forme d'inactivité, de passivité et d'attentisme. Et les Américains, ils disent une chose à 20h, autre chose à 20h30. Donc mettez-vous à la place des Iraniens, c'est extrêmement difficile à vivre à ce moment-là.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas le sentiment que le message qu'on est en train de leur envoyer, nous, mais les Américains aussi, c'est, et d'envoyer au régime surtout, c'est mais vous pouvez tranquillement massacrer votre peuple parce que nous ne prendrons aucun risque.
Le message qu'on a, en fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, après qu'on ait fixé une ligne rouge, c'est comme Obama en Syrie. Dès lors où on fixe une ligne rouge, même si on ne fait rien, c'est faire quelque chose en fait. Donc le message qu'on envoie aujourd'hui, Vladimir Zelensky en a parlé à Davos, on est en train de dire aux dictatures, vous pouvez tuer en fait tant que c'est nécessaire pour rester au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on dit à la population iranienne? C'est allez-y vers la guerre civile. Parce qu'aujourd'hui, le régime iranien en fait ne laisse aucune autre porte de sortie à la population iranienne. Il ne montre aucune limite dans leur cruauté, dans les massacres. Ils se sentent investis d'une mission messianique et ils veulent rester au pouvoir à tout prix. Et les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Les Occidentaux qui devraient venir d'une manière ou d'une autre. L'intervention militaire n'est pas la seule manière d'aider une population. Même si aujourd'hui, moi personnellement, je considère qu'après avoir fixé une ligne rouge, il faut quand même qu'il y ait une opération ciblée militaire en Iran.
Donc ciblée, ça veut dire le guide suprême, c'est ça que ça veut dire en fait?
Ou le guide suprême, ça veut dire certaines bases des gardiens de la révolution qui sont connues de tous les Iraniens, la base Sarallah, la base Khatam, qui se trouve à Téhéran, qui sont en fait les hauts lieux de la répression. Vous savez, pour les mêmes raisons qu'il y a eu cette vague de manifestations, il y en aura d'autres en Iran. Il n'y a pas de changement de régime tant qu'il n'y a pas de fissure au sein de l'appareil militaire, sécuritaire, politique. Et pour qu'on puisse espérer des fissures, il faut qu'on change ce calcul coût-bénéfice de la répression. Aujourd'hui, le régime fait un calcul coût-bénéfice. Ils disent on peut tuer des dizaines de milliers de personnes et il n'y a aucun coût, il n'y a aucune réaction. En fait, il faut changer ce calcul-là. Personne ne dit qu'au lendemain de frappes ciblées américaines, le régime va tomber et qu'il y aura une démocratie norvégienne en Iran. C'est pas la question. La question, c'est de punir en fait ceux qui sont responsables de ce massacre pour espérer que la prochaine fois, le calcul coût-bénéfice change et qu'il y ait des fissures à l'intérieur du régime qui mèneront, in fine, à un changement de régime. Mais le pire message à envoyer actuellement, c'est d'aller négocier avec des gens qui viennent de massacrer leur population.
Parce que de toute façon, qu'est-ce qui se passe demain à Oman? En fait, on fait semblant de négocier sur le nucléaire, mais enfin, on sait bien que le guide suprême ne va rien lâcher sur le nucléaire, on est d'accord là-dessus.
D'ailleurs, ce n'est pas que le guide, hein, c'est le guide, ses conseillers, les gardiens de la révolution. Ils sont très malins, ils nous connaissent très bien, ils connaissent l'état de notre opinion publique, ils connaissent notre politique intérieure, là où nous, on les connaît. Pas du tout. Alors, je parle de nos gouvernements, évidemment. En fait, ils essayent de gagner du temps en disant qu'on va négocier sur un cadre de négociation, sur une plateforme de négociation. Ça ne veut rien dire.
Alors, donc, ça peut durer des mois, c'est ça que ça veut dire.
Savez, l'accord nucléaire de 2015, ça va durer des années. Aujourd'hui, on parle, les Américains, ils posent des conditions sur la portée des missiles, sur le rôle régional de l'Iran, sur son soutien aux proxys. C'est des sujets extrêmement complexes.
Mais gagner du temps avant quoi, Farid Wahid? Gagner du temps pourquoi? Pour se refaire la santé? Ils n'ont pas besoin de ça.
Gagner du temps pourquoi? Un régime en fin de vie, donc en fait, ils vivent dans le présent. Ils vivent dans le présent. Ils essaient juste de gagner le temps possible qui leur reste. L'État iranien est un État. Il faut bien comprendre. Hein. J'entends parfois dans les médias, on dit le régime tient bon. Pas du tout. Un régime politique n'a pas pour seule vocation de massacrer sa population et de rester au pouvoir à n'importe quel prix. L'État iranien est défaillant économiquement. La monnaie nationale continue sa chute. Le taux d'inflation est supérieur à 50%. Il n'y a aucune perspective pour la jeunesse à part partir, quitter le pays ou de se faire tuer en Iran. Les ressources comme l'eau sont extrêmement mal gérées dans le pays. Je peux vous faire une liste très longue des crises que connaît aujourd'hui l'Iran. Donc le régime ne tient pas. Il reste au pouvoir parce qu'il montre encore une fois aucune limite dans la répression. Il tient le pouvoir par la force létale. Et cette situation ne va pas durer indéfiniment. Donc l'Iran aujourd'hui, malheureusement, est en train de se diriger doucement mais sûrement vers une guerre civile.
Donc, qu'est-ce qui est réellement existentiel pour le régime aujourd'hui? Qu'est-ce qui, potentiellement, peut faire peur à ce régime? Ou en tout cas, qu'est-ce qui peut réellement l'affaiblir et qui ferait qu'apparaîtront ces fissures qui donneront peut-être une fenêtre de tir, pas forcément pour les Américains, mais pour le peuple iranien?
Alors, le régime a peur avant tout des Iraniens. C'est pour ça qu'ils tuent des dizaines de milliers de personnes en 48 heures. Mais aussi, ils ont d'autres lignes rouges qu'ils considèrent existentielles, comme la portée de leurs missiles, le fait de pouvoir atteindre Israël, considéré dans la doctrine militaire iranienne comme existentielle. C'est pour ça que je dis qu'il n'y aura jamais d'accord sur ces sujets-là, où leur soutien aux proxys est considéré aussi comme existentiel pour le régime. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au-delà de tout le soutien qu'on peut avoir à la diaspora? à l'opposition. On peut lutter, par exemple, contre la flotte fantôme iranienne. C'est grâce à cette flotte fantôme qu'ils arrivent à exporter du pétrole chinois. Et ça consiste,
80% du pétrole qui va jusqu'en Chine. Ouais.
Tout à fait. Donc, on pourrait faire toutes ces choses-là. Et si on parle, si votre question concerne une potentielle intervention militaire, encore une fois, ça aurait été de taper en fait la tête de l'État. Donc, le bureau
ça, c'est la seule fissure, en fait, qui fait que...
Disons que l'élimination du guide aura des conséquences très importantes pour le régime. La question de sa succession va être extrêmement difficile pour les durs au sein du régime. Et ça donnera une fenêtre de tir, évidemment. Pour les Iraniens, ça leur donnera aussi un courage. Disons, ça leur donnera le sentiment qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas complètement seuls sur cette planète.
En ce moment, on a bien vu qu'il y avait des bateaux américains qui étaient dans le secteur, évidemment, le secteur du détroit d'Ormuz. On sait bien qu'en face de l'Iran, donc dans tous les pays du Golfe, il y a des bases américaines. Jouer sur les détroits d'Ormuz, si les Américains y parvenaient, c'est aussi jouer sur les oligarques iraniens, ceux qui font de l'argent, justement, avec ces 80% du pétrole qui partent jusqu'en Chine, puisque les sanctions ne les atteignent pas eux, atteignent la population, mais ne les atteignent pas eux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'économique et d'efficace à faire dans cette direction-là qui, là aussi, ferait que peut-être certains, j'en sais rien, se retournent contre le régime, ou en tout cas que ça le fissure, parce que économiquement, ils seraient dans une situation encore pire que celle d'aujourd'hui.
C'est une très bonne question. Je suis tout à fait... La réponse est dans la question, je suis tout à fait d'accord. Il faut rendre leur vie le plus difficile possible. Donc sur la question des revenus, encore une fois, l'Iran est sanctionné par les États-Unis, donc par l'extraterritorialité du droit américain et de toute façon par les sanctions de l'ONU et de l'Union européenne. L'Iran est le pays peut-être le plus sanctionné du monde, beaucoup plus que la Russie. Donc normalement, ils ne devraient pas pouvoir vendre leur pétrole aux Chinois. Les Chinois qui sont quand même aussi un adversaire. Aujourd'hui, ils arrivent à le faire par une flotte fantôme en fait. C'est des pétroliers qui ne circulent pas avec un drapeau iranien. Donc effectivement, on aurait pu employer notre marine ou des missions de sécurité maritime de l'Union européenne en coopération avec les Américains pour empêcher cela. Donc effectivement, les Américains aujourd'hui, ils peuvent bloquer, on va dire, les pétroliers iraniens, mais ça veut dire qu'on rentre quand même dans une logique qui est différente de celle d'aujourd'hui, qui est plutôt les Américains qui donnent le sentiment qu'ils veulent aller vers un apaisement. Donc encore une fois, cette négociation, elle est très étrange, parce que qu'est-ce que les Américains espèrent obtenir et qu'est-ce qu'ils seraient prêts à donner? Est-ce qu'ils enlèveraient les sanctions secondaires, primaires, et qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner au régime? Et contre quoi? Et la question du Golfe Persique et du détroit de Hormuz est très intéressante, parce qu'aujourd'hui, quand on écoute le régime, les intellectuels proches du régime, les plus durs, en fait, dans leurs menaces, ils ne menacent pas les bases américaines ou les Israéliens, ils menacent en fait beaucoup plus de fermer le détroit de Hormuz et le Golfe Persique, en créant un choc pétrolier, donc une crise économique mondiale. Et il ne faut pas céder à ce chantage-là.
Il y a une vraie politique de la terre brûlée, effectivement, c'est ça que ça veut dire dans ces cas-là. Mais est-ce qu'elle ne peut pas aller encore plus loin, cette politique de la terre brûlée, Farid Wade? Ça veut dire que quand ils se sentent acculés, ils se retournent, y compris contre leur population, possiblement on parlait d'Israël derrière, contre Israël. De toute façon, si on tombe, on emporte tout derrière nous. Et donc, c'est ça qu'on vous promet, en fait. Est-ce qu'il y a ce risque-là? Y compris vers la population.
Oui, je comprends la question, mais... Dans ce cas-là, je veux dire, dans cet état d'esprit-là, il faut tout arrêter. Il faut fermer Saint-Cyr, il faut fermer le Quai d'Orsay, il ne faut plus rien faire. C'est comme ça. Les dictatures fonctionnent comme ça. La Russie, la Chine, l'Iran, ils vont toujours faire du chantage. Et plus le chantage fonctionne, plus ils vont le faire. Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils ont arrêté un grand nombre de citoyens étrangers. On n'a pas encore les nationalités. Peut-être qu'il y a des Français dedans. Pourquoi ils le font? Parce que ça marche. Parce qu'ils obtiennent des résultats. Donc, en fait, face à des régimes comme le régime iranien, le régime russe, il ne faut surtout pas tomber dans ce chantage. Juste prenons l'exemple, par exemple, du Golfe Persique. Ça coûtera beaucoup plus cher à l'Iran de fermer le Golfe Persique, parce que c'est leur seul revenu. Et ça coûtera beaucoup plus cher à leurs alliés chinois qu'aux Européens et aux Américains. Alors, ça ne sera pas facile, ça sera difficile, mais on pourra rouvrir le Golfe Persique de manière assez, assez facile. Donc, il ne faut pas tomber dans ces peurs-là. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Évidemment qu'il y aura des conséquences. De toute façon, dès lors où vous ne prenez pas de risque, il n'y aura pas de bénéfice non plus. Donc, il faut accepter qu'il n'y a pas d'action sans risque.
On aurait aimé trouver une petite fenêtre d'un tout petit optimisme avec vous, Farid Wade. Ce sera pour la prochaine fois, mais pas ce soir.
Non, mais il faut être optimiste à long terme pour l'Iran, parce qu'on voit l'état de la société et de cette bataille culturelle qui a été gagné par les Iraniens, et à court terme, il faut être pragmatique et venir à leur aide.
Farid Vahid, pardonnez-moi, vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès, et je vous remercie beaucoup. La suite, ce soir, c'est vous, Louise Baudet. Vous remettez le monde à l'endroit.
Le Washington Post sabre ses effectifs. Triste histoire d'un contre-pouvoir qui s'affaiblit aux États-Unis.
Allez, juste après ça.
A shawl and a fire.
Dave Ellis, l'Irlandais, qui fait son entrée dans la playlist d'Inter et dans Un jour dans le monde avec Pale Song, Le monde à l'endroit. C'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Louise, plus d'un journaliste sur trois licencié. Jour de deuil et de colère au Washington Post et jour sombre aussi pour une certaine idée de la presse.
La démocratie meurt dans les ténèbres. Devise mythique affichée en une du Washington Post et citation du non moins mythique Bob Woodward, l'homme du Watergate, le tombeur du président Nixon, Robert Redford à l'écran. Parce qu'en Amérique, Hollywood transcende le réel, le WAPO, c'est à jamais cela. Le crépitement frénétique des machines à écrire, les téléphones qui sonne l'alerte, les reporters qui vont, viennent et ramènent des scoops, institution du journalisme outre-Atlantique et symbole de la presse libre qui se sépare aujourd'hui du tiers de ses salariés. Coupe sombre dans sa matière grise, victoire de l'obscurité.
Donc 100 millions de dollars de pertes en 2024. Louise, est-ce que le quotidien avait le choix ?
Mais c'est vrai que depuis 3 ans, le Washington Post perd de l'argent, des lecteurs, de l'influence, en plein bouleversement de l'écosystème médiatique. Les moteurs de recherche renvoient de moins en moins vers ses articles. Journal d'une autre époque, cingle la direction. Il doit sécuriser son avenir et pour cela licencier. Plus de correspondants au Moyen-Orient ou en Ukraine, Lydie Johnson, en poste à Kiev, a découvert la nouvelle en plein reportage en zone de guerre. Les effectifs des pages locales, sportives, littéraires sont également sabrés. Hémorragie dont l'origine n'est pas seulement économique, elle est aussi pour certains idéologique.
Et un homme incarne ce soupçon, le propriétaire du journal, Jeff Bezos.
Quand il rachète le Washington Post en 2013, le fondateur d'Amazon promet pourtant aux équipes une totale indépendance éditoriale. 11 ans plus tard, il rompt la tradition qui veut que le quotidien soutienne l'un des candidats à la présidentielle, en l'occurrence la démocrate Kamala Harris. Résultat immédiat, 200 000 lecteurs de moins. Jeff Bezos reprend ensuite en main les pages opinion pour les rendre moins hostiles au trumpisme. Entre-temps, il figure au premier rang des patrons de la tech venu prêter allégeance à Trump lors de la cérémonie d'investiture. Bref, l'homme d'affaires qui pèse 245 milliards de dollars ménage ses intérêts. Lui qui signe de gros contrats avec l'État fédéral. Dernière façon de s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump, il vient d'investir 75 millions de dollars dans le documentaire à la gloire de la Première Dame.
Mais alors sabrer dans les effectifs du Washington Post, c'est une manière de complaire au président ?
En tout cas, ce n'est pas pour lui déplaire. Lui qui est lancé dans une croisade contre la presse, Donald Trump réclame en justice des sommes faramineuses au New York Times et au Wall Street Journal. Il vitupère contre les humoristes des late shows qu'il promet d'achever. Il interdit d'accès aux lieux de pouvoir les journalistes décrétés hostiles. Et ce qui arrive au Washington Post vient compléter un tableau déjà bien sombre. Entre la disparition massive de la presse locale et la reprise en main de CBS News par un autre milliardaire de la tech proche de Donald Trump. Alors ce tableau n'est pas uniforme. Le New York Times, grand rival du Washington Post, a gagné l'an dernier plus d'1 million d'abonnés abonnés numériques supplémentaires. Preuve que le modèle économique de la presse indépendante n'est pas frappé d'obsolescence programmée. Preuve aussi de la pertinence de cet autre précepte inscrit sur les murs de la rédaction du WAPO par Kay Grahams, autre figure mythique du journal, incarnée à l'écran par Meryl Streep, c'est dire « Le premier devoir d'un journal s'exerce à l'égard de l'intérêt public, pas au service des intérêts privés de son propriétaire. »
Merci beaucoup Louise Baudet. Le reportage. Un jour dans le monde, c'est un jour en Nouvelle-Zélande ce soir, où chaque 6 février, on commémore la signature du traité de paix entre les tribus maoris et la couronne britannique. C'est ça, la fête nationale des Néo-Zélandais. Mais ces célébrations révèlent en fait une nation profondément divisée, si bien que l'événement est devenu un rendez-vous politique majeur qui dure plusieurs jours. Et le reste, c'est Emma Garbou, Lorenzoni qui raconte.
C'est à Waitangi, l'endroit même où le traité de paix a été signé en 1840, que les plus grandes festivités du pays ont lieu. Et sur les traces du passé, certaines traditions reprennent vie, comme l'activité des waka, des pirogues maoris.
On s'apprête à prendre notre waka pour aller sur l'eau. Mais avant, les membres de l'équipage chantent leur hoyo. Ils font des mouvements précis avec leurs pagaies. Nous, on s'efforce de suivre les traces de nos ancêtres, de pratiquer leurs traditions du mieux que l'on peut afin de perpétuer leur mémoire, de préserver notre langue, notre culture, malgré les politiques du gouvernement qui affectent nos vies.
Padre fait entendre son mécontentement de manière symbolique et traditionnelle. Mais non loin de lui, Mikey dit vouloir s'exprimer clairement. Du haut de ses 82 ans, elle arbore fièrement son drapeau maori orné d'inscriptions revendicatives.
Tous les Néo-Zélandais célèbrent la fête nationale, mais il me semble que ça ne représente pas la même chose pour tout le monde. Pour moi, c'est un jour de deuil. Le traité était censé nous garantir l'égalité, c'est ce que croyaient nos ancêtres lorsqu'ils l'ont signé. Eh bien, les choses ne sont pas passées ainsi. Mais aujourd'hui, nous avons notre mot à dire et je vais organiser une manifestation contre le gouvernement.
Tous les ans, Waitangi est un passage obligé pour les membres du Parlement. Alors nombre de personnes comme Mikey en profitent pour interpeller le gouvernement au pouvoir. Mais le Premier ministre Christopher Luxon reste de marbre et se félicite de son travail.
C'était typique de ce qu'on peut attendre à Waitangi. Et même si souvent on avance de deux pas puis on recule d'un, la voie que nous suivons grâce au traité reste avant tout celle du progrès. C'est parfois chaotique, il y a des désaccords et c'est normal. Au fond, c'est une dynamique bien plus positive que ce que j'observe ailleurs dans le monde où la polarisation est bien plus profonde.
Le traité est considéré comme un document fondateur de la Nouvelle-Zélande. Mais il a un statut limité. Ses recommandations ne sont pas obligatoires pour le gouvernement. Aujourd'hui, Mikey n'y croit presque plus.
Je manifeste sur ce sujet chaque année afin que nous puissions raconter notre histoire sur l'oppression, sur le niveau de racisme, sur le fait d'être rendu invisible. Mais rien n'en est jamais ressorti. Vous avez vu mon âge. La première fois que je suis venue, c'était en 1952. Nous avons toujours été des marionnettes. Toute la société est fortement dominée par une culture euro-britannique. Et l'anglais, bien sûr, la langue que je parle.
Parmi les lacets de la politique, certains se tournent vers la monarchie. La reine maori était aussi de passage à Waitangi pour les festivités. Et si elle n'a pas la légitimité de la famille royale britannique, car c'est le roi Charles III qui est officiellement à la tête de la Nouvelle-Zélande, elle reste appréciée pour son héritage. La famille royale maori a été créée pour rassembler les tribus et renforcer leur unité face à la couronne britannique à l'époque de la colonisation.
Je trouve notre reine magnifique. C'est incroyable qu'elle soit si jeune. Je crois qu'elle n'a que 27 ou 28 ans pour assumer ce rôle. J'ai une grande confiance en elle. Je crois qu'elle va unifier notre peuple, chaque tribu, de la ville de Bluff au sud jusqu'à celle de Kaitaia au nord. C'est une source d'inspiration pour les gens de mon âge. Et nous sommes l'avenir. Enfin, je crois qu'elle représente l'avenir.
Le jeune Enare résonne sur le long terme. Mais le futur de la Nouvelle-Zélande se jouera avant la fin de l'année avec l'élection d'un nouveau Premier ministre. La fête nationale était donc une tribune à ne pas manquer.
et Magarbou Lorenzoni pour leur reportage. Merci beaucoup. La suite, c'est vous, Guillaume Oda, qui revenait de sous les radars.
Sous les radars au Venezuela, où Caracas prévoit de transformer un centre de torture en un centre culturel qui fut autrefois un centre commercial.
Et le jeudi, c'est vous, Stéphane Jourdain, la tech la première.
Je vous parle d'une IA autonome qui prend le contrôle de votre ordinateur.
Allez, à tout de suite les amis, restez avec nous. Le tour de la planète commence à peine. Voici Rosemary Stanley, vous vous souvenez? C'est la chanteuse de Moriarty. Cette fois, ça s'appelle Burns, Birds on a Wire. Voici la reprise de Love Cats, des Cure.
We move like cagey tigers, so we couldn't get closer in this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk, the way we kiss. We slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea, you and me. All these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you, here's the love cats. We missed you, here's the love cats. You're so wonderfully, wonderfully, wonderfully, wonderfully pretty. Oh, you know that I'll do anything for you. We should have each other to tea, huh? We should have each other with cream. And curl up in a fire and sleep for a while. It's the grooviest thing, it's the perfect dream. Into the sea, you and me. All the years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you, here's the love cats. Missed you, here's the love cats. We missed you, here's the love cats. Should have each other for dinner. You should have each other with cream. And curl up in a fire, get up for a while. It's the grooviest thing, it's the perfect dream. Hand in hand is the only way to land, and always the right way round. Not broken in peace like hate a little me says. How could we miss someone as dumb as this?
Birds on a Wire, Love Cats sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Guillaume Oda disparaît tous les soirs sous les radars et remonte avec l'actualité internationale dans sa besace.
At this point, I can't follow them. They should do whatever they want to do.
Guillaume, le Nigeria, pour commencer, ce témoignage brûlant d'une jeune femme. Hier, son village a été attaqué par un groupe armé et un massacre a été perpétré.
Un massacre à huis clos, un de plus, dans un pays secoué par des exactions à répétition, loin, toujours très loin des caméras et des témoins. Hier, en effet, deux villages voisins dans le nord-ouest du Nigeria ont été pris d'assaut par des djihadistes affiliés à l'État islamique, c'est ce que disent les autorités. Dans ces deux localités musulmanes, de nombreux habitants ont été roués de coups avant d'être tués, pardonnez-moi, c'est ce que raconte le visage tuméfié, cette jeune femme qu'on a entendue, elle-même a échappé à la mort. Au moins 170 personnes ont péri sous les balles des terroristes, bilan effroyable qui s'ajoute à ceux des mois précédents. 160 personnes assassinées en décembre dernier, 145 jeunes filles kidnappées dans une école, ça c'était en novembre. C'est dans cette région du Nigeria, souvenez-vous, que Washington avait frappé le jour de Noël au nom de la protection des chrétiens, avait justifié le président américain.
Pendant 2 ans, 6 mois et 8 jours, viviendo en el centro de tortura.
La prison dans laquelle a été torturé cet homme à Caracas pourrait être transformée en centre culturel.
Comme s'il s'agissait d'effacer les crimes du régime, s'étranglent les ONG. C'est Dulcy Rodriguez qui porte ce projet. Preuve, selon la présidente par intérim, que le Venezuela est décidé à tourner la page Maduro, arrêté dans les conditions que l'on sait par l'armée américaine. Sauf que réhabiliter en un centre culturel, le symbole de la répression à Caracas ne passe pas du tout auprès de la population. D'abord, cette prison, elle porte un nom, l'Hélicoïde. C'est un immeuble très connu au centre de la capitale. Il a été édifié dans les années 1950 par des architectes d'avant-garde. Ce devait être un centre commercial futuriste, un bâtiment massif enlacé par une spirale de béton de 4 km de long qui grimpe jusqu'au dernier des 12 niveaux. C'est devenu sous Chavez et Maduro un haut lieu de la tyrannie policière et politique. Plusieurs milliers de dissidents y ont été brutalisés. Des dizaines, peut-être des centaines, y sont morts en détention. Et aujourd'hui encore, 600 à 800 Vénézuéliens croupissent dans les geôles de cette prison d'État que d'aucuns voudraient voir transformer en un lieu de mémoire pour ne pas oublier.
Transition un peu rude quand même, on passe à tout autre chose. Nous sommes au Japon avec nos amis les Pokémon qui fêtent leur anniversaire et voient les choses en grand. Un grand parc d'attractions ouvre ses portes ce jeudi à Tokyo.
30e anniversaire, ça ne nous rajeunit pas. En fermant les yeux, moi je me vois encore jouer avec mes cartes à collectionner dans la cour de récré. Enfin bon, peut-être pas quand même, mais j'y ai joué un fut un temps avec mon téléphone, l'application Pokémon, si si, je vous jure. Bref, ces petites créatures et Pikachu en tête débarquent en force à Tokyo. Le Poké Park vient à peine d'ouvrir ses portes en réalité. Il est sold out depuis des mois. Il faut dire que Pokémon est une franchise extrêmement rentable. Elle a dépassé les 100 milliards de dollars en revenus cumulés, record mondial. Un empire bâti sur une stratégie mixed media. Il y a des dessins animés, des jeux vidéo, des cartes à jouer, du merch comme on dit, c'est-à-dire du merchandising. Et désormais, rien que pour vous Fabienne, parce que vous l'attendez, le Pika Pika Paradise, oui, manège dernier cri du parc Pokémon. Il faudra quand même vous offrir, parce que ce n'est pas moi qui le ferai, le voyage aller-retour à Tokyo.
Je savais que vous étiez méchant, mais à ce point-là. Pikachu. Allez Guillaume, merci beaucoup. Le jeudi, c'est la chronique sur l'IA. Garantie sans IA, la tech la première. Et Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18/20.
Et donc ce soir, Stéphane, vous nous parlez de la nouvelle sensation de la semaine en matière d'intelligence artificielle.
Oui, de la semaine, du mois et sans doute de ce début d'année.
Aujourd'hui, on parle d'OpenClaw qui est en train de révolutionner la manière dont on peut approcher la relation qu'on a avec l'intelligence artificielle au quotidien.
Literally nothing that we know will be the same.
Et là, c'est une vraie révolution de ces assistants d'IA.
OpenClaw, it manages to basically do things that in the past humans used to do.
Una puñetera locura y estamos solo en enero de 2026.
Une révolution, rien ne sera plus comme avant, c'est une pure dinguerie. OpenClaw, c'est l'histoire d'une IA agentique venue d'Autriche que la presse américaine adore. CNBC, bientôt OpenClaw va peut-être gérer des entreprises entières de manière autonome. Wired, ça me met le même coup de pied au cul que l'arrivée de ChatGPT. Scientific American, c'est comme si vous aviez un mercenaire bien payé à vos ordres.
Donc, racontez-nous, ça consiste à quoi ce OpenClaw ?
C'est un programme open source gratuit que vous installez sur votre ordinateur. Installation assez complexe, hein, c'est plus pour des développeurs que pour vous, Fabienne. Mais une fois lancé, c'est très simple. Vous communiquez avec votre agent IA via WhatsApp ou Telegram, exactement comme si vous échangiez des textos avec un assistant. Mais contrairement à Siri ou Alexa, cet assistant peut vraiment agir, envoyer des emails, gérer votre agenda, réserver un vol. Il se souvient de tout et il peut même prendre des initiatives. Diego Ferri, expert IA chez EY Faber-Novel, l'a testé cette semaine et il nous explique pourquoi nous rentrons dans une nouvelle dimension.
Depuis les premiers assistants, notamment mobiles, avec Siri et ainsi de suite, on rêve d'un assistant qui va au-delà de nous dire l'heure, nous dire la température ou lancer un minuteur, mais qui va vraiment exécuter des tâches, trier et répondre à nos emails, ranger nos fichiers et ainsi de suite. Pour moi, c'est pas une nouvelle espèce d'intelligence artificielle, mais c'est plutôt un nouveau degré de pouvoir opérationnel donné à l'IA. C'est pas forcément une IA plus intelligente, mais c'est vraiment une IA à qui on a donné des mains.
Une IA à qui on a donné des mains, c'est un poil inquiétant, mais est-ce le point de bascule où l'IA peut acheter à notre place un billet Paris-Limoges sur le site de la SNCF ?
Tout à fait. Ça permet ça si on lui donne droit. Donc, pour beaucoup des cartes de débit, notamment en Europe, on a toujours une deuxième étape de validation. Mais on a vu pas mal de cas la semaine dernière aux États-Unis où les robots ont accès à une carte de crédit qui ne demande aucune validation supplémentaire pour faire un achat. Et ça permet de réserver un voyage, de prendre une place de cinéma, de faire des achats en ligne. Et c'est d'ailleurs un des risques majeurs de ce genre d'application.
Un des risques majeurs, il y en a bien d'autres. La Chine vient d'émettre aujourd'hui une alerte de sécurité sur OpenClaw. IA vulnérable aux cyberattaques et aux fuites de données.
Mais pour son créateur, Stéphane, OpenClaw va pouvoir prendre en charge une bonne partie des tâches numériques gérées par les humains.
Et oui, Peter Steinberger, c'est son nom, un Autrichien quarantenaire. Il a codé OpenClaw tout seul dans son coin à Vienne le week-end. Voilà comment il parle de son invention.
Nous y voilà. Le futur est là. On va tous avoir notre assistant IA ultra efficace qui nous suit toute notre vie. Si vous donnez l'accès à votre ordinateur à ce genre d'IA, elle peut pratiquement tout faire à votre place. En y réfléchissant un peu, je me dis qu'à terme, ce genre d'IA peut remplacer 80% des apps qu'il y a sur votre smartphone.
Dit autrement, ces IA vont pouvoir suppléer les humains dans 80% des tâches que vous faites derrière un écran, que cet écran soit un smartphone ou un ordinateur.
Donc 80%, Stéphane, il se pousse un peu du col, votre pote, non ?
Oui, fantasme ou tsunami à venir. On a posé la question à deux spécialistes, deux associés qui ont lancé ensemble la start-up Mojo, spécialisée dans les agents IA en entreprise. Paul Berlotti et Mathieu Delafournière. Écoutez leur échange, ils ne sont pas d'accord. Et c'est Mathieu qui commence.
Oui, moi je pense qu'effectivement, les métiers à faible valeur ajoutée, où il n'y a pas de production ni relationnelle humaine, ni de réflexion ou de créativité particulière, c'est des jobs qui vont progressivement disparaître.
Vous êtes d'accord, Paul ?
Ce que je pense, c'est que dans les impacts, pas sûr que ça nous fasse gagner réellement du temps. Comme les emails nous racontaient que ça allait nous faire gagner du temps. En fait, le résultat, on s'est juste envoyé beaucoup plus d'emails par jour et le téléphone était censé nous faire gagner du temps. Aujourd'hui, on passe 4 heures de temps par jour sur nos téléphones. En revanche, nos vies, notre quotidien a considérablement changé.
Là où je rejoins Paul, c'est que quand on voit la quantité de choses qui vont pouvoir être automatisées, on va faire plus vite les mêmes choses. Mais est-ce que ça va nous rendre ce temps gagné ? Ou est-ce qu'on va juste le déporter ailleurs ? Il y a une vraie question autour du rapport de travail et de sa place dans la société et de comment il est réparti entre les gens.
Car derrière OpenClaw, une armée d'agents IA pointe leur nez. Google, OpenAI et Anthropic développent des cousins de plus en plus autonomes. Et Meta vient de racheter la start-up chinoise Manus, un agent généraliste extrêmement polyvalent.
Et toutes ces avancées sont donc scrutées de très très près par les bourses.
Et oui, les actions du secteur des logiciels ont perdu près $1 milliard depuis 6 jours. Les IA vont pouvoir les remplacer, c'est ce qu'anticipent certains analystes. Et pas seulement les logiciels. Écoutez comment l'un des principaux investisseurs de la Silicon Valley, Marc Andreessen, parle des IA agentiques.
On peut imaginer un agent IA qui lève de l'argent pour produire un film, qui utilise cet argent pour générer des images et du son, ou même, pourquoi pas, pour embaucher de vrais acteurs, des décorateurs, des graphistes, des musiciens, et qui, à la fin, produisent un film.
Voilà ce que la Silicon Valley a en tête. Mais je vous rassure, Fabienne, rien ne vous oblige à aller voir ce film.
Allez, mais j'adore. Pourquoi pas embaucher de vrais acteurs ? Et c'est vrai, c'est tellement punk d'avoir des humains. Merci beaucoup, Stéphane Jourdain.